Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce magazine de la vie au quotidien au Okapi Service. C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui pour vous servir. Eh bien, de quoi allons-nous parler aujourd'hui dans cette émission? Nous allons parler plutôt des discours de haine. Comment lutter contre les discours de haine qui prend de plus en plus de l'ampleur en République démocratique du Congo? On en parle tout à l'heure dans cette première partie de l'émission au Okapi Service avec Maître Patrick Nsassa. Il est chargé de la direction des suivis des activités publiques à l'Association africaine des défenses des droits de l'homme. Maître Patrick Nsakata, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour, c'est Gary Sakata.
Bienvenue Maître Gary Sakata. Honorable Gary Sakata, bienvenue dans cette émission. On vous retrouve dans quelques instants et dans la deuxième partie de cette émission de la vie au quotidien. Au Okapi Service, nous allons aborder un autre thème qui va certainement vous intéresser. Comment lutter contre la pêche illégale en République démocratique du Congo? Professeur Mutambu Eshango, expert en écologie du milieu aquatique, sera notre invité. Pour participer à cette émission, le standard est déjà ouvert. Il suffit de composer les 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Willem Lungamba assure la mise en onde, Tati Mapuku à la réalisation. Marcel Ngombo assure la coordination de cette émission qui est présente jeudi Daniel Kajama. Bienvenue à tous et excellentes conditions d'écoute du magazine de la vie au quotidien.
Radio Okapi.
Okapi. Okapi Service. Une émission au service des populations. Des questions, suggestions et problèmes qui vous touchent, ils sont au rendez-vous tous les jours du lundi au vendredi. Okapi Service, une adresse pour trouver solution à vos préoccupations.
Okapi. Fidèles auditeurs, ravis de vous retrouver dans ce programme, dans cette émission de la vie au quotidien, Okapi Service. Nous allons parler à présent de la lutte contre les discours des haines. Depuis un moment, on assiste depuis quelques temps à l'escalade des discours de haine et d'incitation à la violence à l'encontre des personnes rwandophones. Alors des images montrant des jeunes machette à la main en train de rechercher des sujets rwandais circulent de plus en plus dans les réseaux sociaux. Par ailleurs, les discours de haine refont surface souvent pendant les périodes de haute tension politique, par exemple à l'approche des élections. Alors quels sont les mécanismes efficaces des luttes contre les discours de haine et la prévention des violences? Eh bien, nous en parlons dans cette émission avec l'honorable Gary Sakata. Il est auteur du projet de loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie. Honorable Gary Sakata, encore une fois, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Bien, on assiste ces derniers temps à l'escalade des discours des haines. Qu'est-ce qui motive cela, d'après vous?
Alors, les causes qui motivent actuellement l'escalade des discours des haines sont c'est dû à certains comportements de politiciens ou de politiques de la sous-région qui au lieu de privilégier la paix, la cohésion régionale et même nationale, mettent en avant des pratiques d'arrogance, des pratiques de minimisation d'autres peuples, de sorte qu'en retour, un peuple qui se croit être minimisé tente de prendre une forme de revanche. Et malheureusement, cette revanche n'est pas prise sur les bonnes personnes, étant donné qu'elles sont des innocentes personnes, sans défense, sans autre forme de défense personnelle, qui sont des victimes. C'est vraiment malheureux.
Voilà, c'est vraiment malheureux. Vous avez dit que c'est tout simplement de la manipulation. C'est certains hommes politiques qui sont derrière ces genres de discours.
Oui, ce que je veux dire, c'est que les comportements de certains politiciens au niveau de l'Afrique centrale font en sorte que les peuples, certains autres peuples, se croient être minimisés et prennent une forme de revanche. Mais malheureusement, cette revanche est prise sur des individus qui n'ont rien à voir avec ce que les politiciens font. Donc des pauvres citoyens qui cherchent à vivre de la débrouillardise de jour en jour, loin parfois de leur pays, et qui doivent sortir le matin pour survivre, sont sacrifiés pour des comportements de politiques au niveau de chaque pays. Quoi. C'est ça qui est malheureux. Ouais. Mais on doit mettre fin à cette pratique parce que cela risque de conduire à des actes très graves au niveau, à une situation très grave au niveau de la sous-région.
Oui, mais certains affirment que c'est à cause de disons, l'agression de notre pays par le Rwanda que ces gens des discours font surface.
Mais c'est ce que je suis en train de dire, mais l'agression, c'est ça l'acte irresponsable auquel je fais allusion. Ce sont des actes irresponsables, les limites des territoires sont fixées depuis les conférences des colons, des colonisateurs. Chacun doit rester dans ses limites. Donc, et voilà que les peuples vivent pacifiquement comme ils le sont d'ailleurs. Ce sont les politiciens qui exacerbent ces situations alors que les peuples entre eux en principe et a priori n'ont pas de problème.
Oui, on a vu par exemple dans les réseaux sociaux des images des jeunes machette à la main en train de rechercher les rwandophones partout ils sont à Kinshasa et certains ont même des adresses précises, ils sont à tel autre endroit, alors c'est la chasse à la sorcière.
Mais ce n'est vraiment pas normal que des personnes, que des citoyens congolais puissent commencer à rechercher des personnes en tenant compte de leur faciès, de l'idée des faciès, en tenant compte de la morphologie, que ces personnes soient des nationalités congolaises, parce qu'il peut y avoir, nous sommes tous des Africains, que ces personnes soient des nationalités rwandaises, il n'y a aucune raison, parce que ce sont des personnes innocentes. Qu'est-ce que ces personnes ont fait par rapport à cette situation pour qu'on aille les brutaliser? Est-ce que le gouvernement rwandais ou autre pays de l'Afrique centrale connaissent-ils ces pauvres citoyens qui se trouvent loin de leur pays en train de chercher la survie? Donc, ces actes sont condamnables et cela ne doit pas continuer de cette manière-là. Il faudrait que les compatriotes, les Congolais, qui ont pris ce risque ou cette décision d'aller attaquer d'autres personnes, parfois également des personnes congolaises, sur base de leur faciès, doivent mettre fin à ces pratiques. Et là, d'ailleurs, je vous dis que il y a un arsenal législatif, mais qui est tout à fait maigre, qui condamne ce genre d'actes et il y a des sanctions même pénales ainsi que des amendes qui sont prévues à cet effet. Donc, ces personnes qui se comportent ainsi risquent l'emprisonnement.
Bien, parce que si on s'en tient aux faciès des gens, on risque même de faire du mal à certains sujets congolais, parce que il est difficile d'identifier que telle nationalité, juste tout simplement par le faciès.
Oui, mais qu'il soit des nationalités congolaises ou des nationalités étrangères, africaines ou même européennes, c'est l'humain. L'on ne peut pas commencer à mettre en discuter le genre humain. Donc, que les personnes là aient un faciès différent de celui qui attaque A, n'a aucune raison pour qu'on puisse développer des discours de haine sur base du faciès. Les messages adressés, ce sont des messages que l'on doit adresser aux politiciens des pays de l'Afrique centrale, aux politiciens africains. Il faudrait éviter de mettre en place des politiques qui engendrent les frustrations sociales. Parce que les frustrations sociales engendrent la haine. La haine engendre les violences. Et la violence ne fait que nous reculer sur le plan du développement. Donc c'est le sous-développement. Donc, moi, je répète, qu'importe le faciès de la personne, c'est l'humain et un humain a droit à sa liberté, a droit à la paix.
Bien, honorable Gary Sakata, vous avez initié un projet de loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie. Où est-ce qu'on en est avec ce projet?
Et comme vous le savez, j'ai initié cette loi depuis le 16 septembre 2020. Et aujourd'hui, nous allons dire à la session de septembre 2022. Et cette loi est dans le tiroir du bureau de l'Assemblée et je ne sais pas pourquoi ils ne font pas passer cette loi. Chaque fois, la proposition est mise sur le calendrier, mais personne n'en fait cas. Alors que même que le tout est prêt pour que la proposition puisse passer en plénière. Cette proposition est importante parce qu'elle contient des mécanismes pouvant juguler la situation dans laquelle nous sommes en train de patauger actuellement.
Voilà. Elle tient compte aussi de tout ce que nous on décrit aujourd'hui, les discours de haine qu'on entend par-ci, par-là.
Oui, les discours de haine, les messages de haine, et les infractions, les mesures, il y a dans cette proposition de loi des mesures préventives, parce que l'ordonnance-loi qui nous régit actuellement depuis 1966 n'a prévu que des mesures correctives, ça veut dire des mesures pénales, donc des répressions. Mais là, nous avons prévu des mesures préventives. Par exemple, dans le cas actuel que nous connaissons actuellement, les messages de haine contre les gens présentant un certain faciès. Quelle est la solution que l'on peut trouver? C'est l'éducation, c'est la sensibilisation. C'est contenu dans la proposition de loi. Des mesures éducatives, aussi bien au niveau de la famille, aussi bien au niveau de l'école qu'au niveau des églises, parce que les églises ici au Congo ont quand même un rôle très important. Donc, c'est par ces moyens-là qu'on peut juguler, surtout en cette période, cette situation.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Pierrot nous appelle de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Capi.
Nous parlons de la lutte contre les discours de haine. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Merci. Moi, je trouve que normalement dans notre pays, il y a quelque chose qui est peut-être à l'origine de ce que nous appelons discours de la haine. Même si nous pouvons voir le député proposer des propositions de loi, les lois, nous en avons tellement beaucoup, mais qui souffrent d'application. Parce que nous constatons que peut-être c'est eux-mêmes qui nous poussent. J'ai même une situation où on nous dit que Albert Einstein a dit « Deux choses sont infinies, qui sont infinies sont l'univers et la bêtise humaine. » Mais chaque fois que nous voyons un homme politique venir, sachant qu'il sera accompagné d'une bêtise humaine qui lui va vraiment nous enseigner, nous, la population, à haïr quelqu'un pour que lui-même bénéficie de ce qu'il a besoin. Or, moi personnellement, je peux appeler ça comme un droit imparfait, une politique de césarisme. C'est ce que nous pouvons appeler.
Alors, Pierrot, d'après vous, quel mécanisme mettre en place pour lutter contre le discours des haines?
Voilà. Nous pouvons faire des lois pour lutter contre le discours de la haine, mais cela doit commencer d'abord par eux-mêmes qui proposent ces discours, par eux-mêmes qui nous appellent au civisme. Et ça sera d'abord un bon début de la lutte contre ce genre de manifestations. Tant que nous, qui sommes à la maison et qui sommes victimes, parce que parfois nous avons les droits, mais on ne parvient pas à avoir ces droits et nous sommes obligés d'aller peut-être faire une haine pour avoir ces droits-là. Que ces gens-là puissent nous enseigner en pratiquant d'abord les bons droits. Parce que nous pouvons dire qu'aujourd'hui, que non, je ne peux pas haïr. Et d'ailleurs, la Bible est claire. Nous, étant chrétiens, nous ne pouvons pas prêcher la haine. Mais qui nous prêche la haine, c'est le politique. Mais ça doit commencer d'abord par...
D'accord. Nous retenons que la sensibilisation, donc vous avez dit la sensibilisation est l'élément important. Et les politiques doivent prêcher par l'exemple. Héritier, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour Jody, bonjour à M. Gary Saranta.
Oui, comment lutter contre les discours des haines? Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
Monsieur Jody, nous avons le texte qui nous demande, je pense, ce que nous avons ici comme problème, M. Jody. Nous avons le texte de loi. Pourquoi ne pas arrêter et déférer devant la justice toute personne qui serait impliquée dans ce genre de pratique, monsieur Jody. Nous sommes dans quel pays, monsieur Jody? On ne peut pas cautionner ça, monsieur Jody. On ne peut pas en comprendre ça. L'honorable, je pense que j'avais suivi la fois dernière qui serait en train de faire une loi portant. Qui serait là pour lutter contre le racisme et les discours de haine comme ça.
Oui.
Avec ce texte, monsieur Jody. Parce que nous sommes sur la terre, nous ne sommes pas en affaire. On ne peut pas.
Bien. Donc, d'après vous, il est important d'arrêter toute personne qui tient ce genre de discours. Il faut l'arrêter, traduire cette personne en justice, selon vous.
Il paye des amendes qui sont prévues. Ça serait comme une leçon pour les autres.
D'accord. Ça serait une leçon exemplaire pour les autres. Honorable Gary Sakata, votre réaction.
Bon, j'ai bien suivi. Le premier intervenant est revenu sur ce que nous avons dit. Il prône la sensibilisation et que le politique prêche par l'exemple. C'est exactement ce que je tentais de dire.
Oui.
Effectivement, les politiciens doivent prêcher par l'exemple parce que la plupart d'actes de haine, des messages, des discours de haine sont la résultante du comportement des politiciens. C'est ça qui entraîne souvent. Les politiciens, les gouvernants surtout, l'exécutif doit prêcher par l'exemple. Et effectivement, comme je l'ai dit, on doit procéder maintenant cette période, et heureusement, c'est ce que vous faites exactement, on doit vraiment accroître le mécanisme de sensibilisation adressé à la population pour qu'elle mette fin aux discours et actes de haine à l'égard de toute personne, qu'elle soit une nationalité congolaise, qu'elle soit une nationalité étrangère, ayant telle ou telle autre faciès, parce que nous tous sommes des créatures de Dieu, nous sommes l'humain. Alors, mais néanmoins, en ce qui concerne le premier intervenant, je tenais quand même à dire, parce qu'il semble dire qu'il semble stigmatiser entre guillemets les lois et tout ça, mais aucun pays, les pays démocratiques doivent fonctionner sur base de lois. Et les lois doivent être le reflet de la réalité sociale nationale actuelle. L'ordonnance loi sur le racisme, et d'ailleurs ça parle du racisme et du tribalisme peut-être ça, date de 1966 et ça n'avait qu'un caractère répressif. Il n'y avait pas ça ne comporte pas des aspects éducationnels, des aspects de prévention. C'est pour ça que la proposition de loi que nous avons introduite est très importante et serait de nature à juguler divers problèmes que nous avons actuellement. Alors, en ce qui concerne le deuxième intervenant qui propose à ce qu'on arrête et qu'on défère, il s'étonne qu'on n'arrête pas et qu'on ne défère pas tous ces auteurs des actes de haine et des discours à la justice. Oui, il a totalement raison. Il faudrait finalement que le parquet fasse son travail. Parce qu'il dispose quand même de manière minimale, d'un instrument juridique qui est l'ordonnance loi de 1966. Et d'ailleurs, il y a une autre de 1960. Le parquet devait se saisir. J'ai entendu un membre du gouvernement hier en train de parler à la télévision sur les cas, je crois que c'est le ministre de l'Intérieur. Oui, mais les parquets doivent sévir. La police doit sévir pour devoir mettre fin à ça. Le ministre de l'Intérieur ne doit pas se mettre à implorer la police. Il doit instruire la police pour qu'on mette fin, parce que c'est lui, sur le plan de la sécurité, le premier responsable. Et surtout, le parquet, qui est le chef de la police, doit faire son travail, et c'est maintenant le moment.
Bien, on va accueillir Charles Kisimba de Lumbashi et Kachai de Kanyuka. Bonjour Charles.
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire? D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre les discours de haine?
En tout cas, là où on ne comprend pas d'abord, mais c'est Jody, la haine est devenue persistante en RDC, au point même de manipuler ceux qui ont étudié. Et pourtant, quand on a étudié, on a quand même les fronts éclairés. On doit avoir une certaine façon de réfléchir, de raisonner. Par contre, dans notre pays, les vrais auteurs et complices sont ceux qui ont étudié. Voilà là où que ça nous dépasse un peu. Maintenant, je voulais poser une question à l'honorable Sakata. En dehors du pays, nos frères du monde sont souvent unis pour faire du tort aux Congolais. Et ils en trouvent ça normal. Mais si ce sont les Congolais qui s'unissent pour sauver l'intégrité de leur territoire, là on condamne haut et fort. Alors on ne comprend pas souvent. Est-ce qu'on doit laisser violer notre domicile, ou bien qu'est-ce qu'on va faire à ce net moment? Parce que si c'est ailleurs,
Là, c'est normal. Vous ne verrez pas condamner la population. Mais ici, chez nous, nous sommes tués, même dans nos propres maisons. Alors là, on ne sait pas encore si c'est la haine ou bien si c'est la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Voilà un peu ce que nous voulons savoir.
Bien, merci Charles. Kachai depuis Kanyuka, bonjour.
Bonjour monsieur, je dis Daniel Kachama et bonjour à l'honorable Gary Sakata.
D'après vous, comment lutter contre les discours de haine?
Merci beaucoup monsieur Jody, la question est pertinente. Monsieur Jody, on peut avoir quitté le village, le territoire, la province avec le corps, mais pas non plus avec le cœur. La situation des élections en RDC est à la base de ce que nous connaissons aujourd'hui comme discours de la haine tribale. Lors des élections, c'est en 2023, s'il y en aura, monsieur Jody, vous allez constater que tous les candidats chercheront à postuler dans leur circonscription électorale telle que tracée par la CENI. Parce que quand la CENI a commencé avec les opérations de la cartographie, c'est pour qu'au moment où les gens pourront postuler, ils puissent postuler dans leur circonscription où ils sont connus. Et quand ils viennent pour tenir des discours de la campagne électorale afin qu'ils puissent convaincre les leurs pour qu'ils aient des voix, monsieur, je dis, mais vous allez entendre des choses. Et tout le monde cherche à ce qu'ils soient représentés dans l'hémicycle. Donc, chaque contrée, chaque tribu. Parce que quand ils viennent, d'abord, les politiciens disent que l'élection est tribale. Et dans les nominations qui peuvent intervenir, que ce soit dans le gouvernement provincial, gouvernement central, les mandataires publics, les entreprises publiques, on vous parle de la représentation, la représentativité plutôt. Et puis, on veut que chaque contrée du pays soit représentée. Et s'il n'y a pas la représentativité, il y a des problèmes. Vous allez entendre que telle tribu s'est soulevée contre la décision de telle et telle. Alors, on parle de l'arrestation que le parquet arrête. Si le parquet diligente les poursuites à l'endroit de ceux qui parlent ainsi, mais si je dis, on va dire que le pouvoir est en train de faire la chasse aux sorcières. Mais qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre le discours de haine tribale? Il n'y a pas plus que loin, au Katanga, il y avait un forum sur la paix et la cohésion sociale, la cohabitation pacifique. Pendant que le Katangais ont organisé ce forum-là chez eux au Katanga, les Kasaïens ont organisé à l'hôtel Béatrice à Kinshasa. Au lieu qu'ils descendent aussi dans leur propre territoire, dans leur propre province, non seulement les Kasaïens, mais tous les autres, les représentants des différentes provinces qui sont à Kinshasa, ils doivent descendre dans leur province, dans leur territoire, dans leur secteur pour sensibiliser, pour éduquer. Parce qu'un homme, l'homme doit être éduqué. Car l'éduquer, c'est l'aider à prendre de bonnes décisions. Quand on n'a pas une éducation de masse, quand on ne sait pas considérer l'un pour l'autre, monsieur Jody, on risque d'arrêter tout le monde. Parce que si on veut arrêter, on va arrêter en commençant par les députés nationaux. Ce sont eux qui viennent en province avec ces discours-là. Maintenant, imaginez-vous, Gary Sakata, l'honorable, connaît que pour arrêter
bien
un député, ce n'est pas facile. Le député ne doit pas être arrêté comme n'importe qui.
Merci. Alors, beaucoup, Kachai. Merci, Kachai. D'accord, c'est noté. On va accueillir Bienvenue de Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, je dis bonjour Radio Okapi.
On vous écoute, bienvenue.
Oui, je dis le fait d'ailleurs est condamnable par tout le monde parce qu'aujourd'hui, en plein 21e siècle que nous sommes, on ne peut pas accepter que les gens soient marginalisés par rapport à leur morphologie, par rapport à leur groupe ethnique. Mais au-delà de tout cela, il fallait signifier une chose. Il y a les discours qui traversent dans notre pays, les gens disent... Si aujourd'hui nous avons la guerre à l'est de notre pays, c'est parce qu'on a accepté, on dit peut-être les Congolais sont lâches, nous sommes victimes de notre hospitalité. Il y a certains discours, même nos autorités doivent essayer un peu de giguler, donc qu'on n'en parle pas sur les lieux publics. Parce qu'à chaque fois, quand vous dites ces trucs-là, vous mettez la population la pisse à l'oreille. Ça peut inciter les gens à faire du mal. Oui, aujourd'hui il y a certaines personnes qui sont victimes de leur morphologie. Ça fait quand même du mal. Il faut que l'autorité publique puisse prendre les choses à bas les corps, parce que ça risque de déboucher.
Alors, qu'est-ce que l'autorité publique doit faire concrètement, bienvenue?
Oh, Oui, tout à l'heure, là, le professeur, que je salue d'ailleurs mon professeur, a bien dit, la loi est l'ancienne. C'est une ancienne loi. Il fallait que la législation actuelle puisse s'accorder avec les situations que nous vivons. Parce que c'est d'ailleurs une loi de l'époque coloniale. Peut-être à cette époque-là, on ne vivait pas les mêmes situations que nous vivons aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. Honorable Gary Sakata, vous avez suivi les préoccupations des auditeurs. À vous la parole.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie tous les trois intervenants. Je remercie le dernier intervenant et l'avant-dernier qui rejoignent pratiquement mes propos d'avant. Mais il y a un parmi les trois intervenants qui estime que nos compatriotes sont parfois maltraités ailleurs et que c'est pour ça, selon lui, enfin, c'est moi qui tire la conclusion, qu'il trouverait donc normal, en quelque sorte, que...
Qu'il y ait ce genre de discours-là.
Ce genre de situation. Non, moi, je voudrais dire que ce n'est pas normal de mener une telle réflexion. Qu'est-ce qu'un monsieur qui habite à Kindu, à Kisangani, à Bandundu, à Bagata, et je ne sais pas où encore, mais qui aurait une morphologie, qui serait même de nationalité rwandaise ou burundaise, avec ou sans morphologie, aurait-il de l'influence sur l'agression dont le planning est fait par les politiques de son pays pour qu'on puisse maltraiter ces derniers? Peut-être même des personnes qui vivent depuis 20-30 ans chez nous.
Qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle.
Allô?
Oui, je disais des personnes qui vivent chez nous depuis des années et qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle.
Et qui n'ont rien à voir avec la situation actuelle. Donc, si une personne est poursuivie dans un pays pour une infraction de droit commun, une infraction ordinaire, il y a la police et les parquets qui s'en chargent. Mais aller avec machette, gourdin et consort dans le quartier en train de rechercher des gens uniquement sur base de leur morphologie, cela me semble assez grave et on doit arrêter cela. Donc on doit mettre halte à cela et nous appelons le gouvernement, les politiques des pays de l'Afrique centrale à poser des actes responsables dans le cadre de la politique de bon voisinage qu'ils doivent mener. L'on ne doit nullement sacrifier les populations pour des intérêts relatifs aux ressources naturelles. Non, l'humain passe au-dessus des ressources naturelles.
Bien. Donc, honorable Gary, qu'est-ce qu'il faut faire pour que votre projet de loi soit mis sur la table? Il semble être relégué, être oublié. Qu'est-ce qu'il faut pour le remettre à nouveau sur la table afin que ce projet de loi puisse être adopté?
En tout cas, en ce qui me concerne, le processus prévu dans notre règlement intérieur pour qu'une proposition de loi ou un projet de loi puisse passer en plénière est déjà totalement réalisé et on attend désormais que le bureau de l'Assemblée nationale pour faire passer ces dossiers en plénière. Je suis surpris que l'on ne considère pas depuis 2020, parce que comme je vous l'ai dit, monsieur le journaliste, je me suis toujours vu comme étant un député futuriste. C'est-à-dire au moment où les gens analysent les faits du présent, moi j'analyse déjà les faits du futur. Depuis 2019, j'avais déjà pressenti l'exacerbation des discours de haine, les discours xénophobes. C'est pourquoi j'avais pris l'initiative personnelle de rédiger cette proposition de loi, malheureusement qui traîne. Je compte sur la bonne foi du bureau pour que non seulement que ça soit mis au calendrier de la session prochaine, parce que ça a déjà été plusieurs fois mis dans le calendrier, mais que cela passe effectivement en plénière. Vous savez, dans cette proposition de loi, il y a des choses encore plus intéressantes que parce que l'émission ne concerne pas cela. Je propose la création d'un organisme de surveillance des actes anti-discriminatoires, donc des actes xénophobes. Donc, il y aurait cet organisme qui se mettrait maintenant là à compter dans quelle province, dans quel milieu est-ce qu'il y a beaucoup d'actes de xénophobie et de quelle nature. Donc, et cet organisme serait même en mesure d'ester en justice, donc de saisir la justice, parce que parfois, lorsqu'il y a des actes de xénophobie ou de haine, des discours de haine, les victimes ont parfois peur. Elles disent, bon, si je vais accuser, et certainement après moi, les gens, toute la population ici va se mettre à me massacrer. Mais je donne cette compétence à cet organisme de surveillance des actes antidiscriminatoires pour saisir directement le parquet ou le juge. Donc voilà un peu Pourquoi est-ce que cette loi est importante de mon point de vue?
Bien. Honorable Gary Sakata, auteur de la proposition de loi contre le racisme, le tribalisme et la xénophobie, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Excellente journée et à la prochaine.
Mais j'ai un dernier mot.
Allez-y.
Alors je voudrais donc appeler la communauté nationale, la communauté congolaise, donc tous les Congolais et Congolaises, à bannir les discours de haine, les messages de haine, parce que cela entraîne la violence. Cela entraîne, nous reconduit vers le sous-développement et finalement, ce n'est favorable à personne. Nous devons donc, le message que je veux lancer, que nous sommes tous des humains, nous sommes tous des citoyens du monde, respectons-nous et protégeons-nous mutuellement. Laissons au parquet et à la police de faire son travail, mais que nous puissions nous protéger mutuellement parce que nous sommes tous des citoyens du monde, nous sommes des humains. Voilà.
Bien, merci honorable Gary Sakata. Bonne journée.
Je vous remercie.
Si vous avez manqué une édition du journal en français et en langue nationale de Radio Okapi, ou encore la chronique coronavirus et le journal de sport, vous pouvez appeler gratuitement le service 42 502 en utilisant un numéro Vodacom. Les appels sont gratuits. Composez les 42 502 et choisissez le menu de Radio Okapi en appuyant sur 3 après le message de bienvenue. N'oubliez pas, les appels sont gratuits en utilisant un numéro Vodacom. Radio Okapi, encore plus proche de vous pour mieux vous servir.
Bien, comment lutter efficacement contre les discours de haine? Nous allons accueillir à présent Maître Patrick Nsassa. Il est membre de l'ASADO, l'Association africaine des défenses et droits de l'homme. Maître Patrick, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission.
Merci.
Au Capi Service, on parle aujourd'hui de la lutte contre... On assiste ces derniers temps à une montée de discours de haine à travers le pays avec la situation de l'Est. On a vu dans les réseaux sociaux des jeunes gens avec le machette allant chercher des sujets rwandophones, ou ceux qui ont la faciès ou la morphologie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ce genre de situation?
Bon, d'emblée déjà, la première réaction d'abord, c'est de pouvoir condamner ce genre de comportements, ce genre de pratiques. Parce que il faut qu'on se le dise, nous sommes un pays qui est organisé par des lois. Je crois que même la constitution de notre pays, dans son article 32, demande à ce que tout étranger se trouvant sur le territoire de la RDC soit protégé. Je pense que le comportement de ces jeunes gens-là, nous les condamnons, mais quelque part aussi, nous disons que c'est une alerte qu'il ne faut pas prendre aussi à la légère. Parce que il faut se demander, nous avons une armée qui combat à l'Est, c'est vrai, par rapport au M23, mais qu'est-ce qui fait que ces jeunes gens-là puissent aujourd'hui s'élever pour pouvoir chercher des Rwandais avec des machettes pour pouvoir mettre fin à tout ça?
On peut dire qu'ils sont manipulés.
Non seulement qu'ils sont manipulés, mais je pense que c'est un ras-le-bol. Ce sont des gens qui ont vécu des situations. Tout le monde, nous l'entendons tous les jours, comment est-ce que nos frères et sœurs sont massacrés à l'insu de nos FARDC. Des fois dans certains territoires qui sont occupés par nos FARDC, qui sont contrôlés par nos FARDC, mais qui heureusement nous réveillons un matin, nous attendons que les gens aient été tués à coups de machettes, tout ça.
Voilà.
Donc quelque part, ces jeunes gens-là se demandent, mais l'armée est là. Qu'est-ce qu'ils font par rapport à la protection de ces populations? Donc quelque part...
C'est l'expression du ras-le-bol.
C'est l'expression du ras-le-bol. Donc ils sentent vraiment que non, trop c'est trop, nous devons nous prendre en charge pour que nous puissions en finir. Ce sont des pratiques que nous n'encourageons pas. Mais nous interpellons les autorités à pouvoir prendre en compte ces agissements, ces pratiques-là qui sont opérées aujourd'hui par les jeunes.
Il semble qu'il y aurait même une autorité qui aurait dit aux gens, à la population, de prendre la machette et de faire la chasse à l'homme.
Non, 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 non. Ce genre d'autorité vraiment mérite. C'est comme ça que nous rejoignons l'honorable Sakata pour que cette proposition de loi soit étudié au niveau de l'Assemblée générale. Parce qu'on l'a dit, toutes ces décrets, l'Assemblée nationale. Il y a les décrets, les ordonnances qui datent de très longtemps de 1960, de 1961, mais on doit les contextualiser par rapport aux réalités actuelles.
Oui.
Pour qu'on arrive à sanctionner, parce que s'il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de lois qui prévoient la sanction, on ne peut pas sanctionner ce genre d'autorité qui tiennent ce genre de discours aujourd'hui. Donc c'est vraiment important, je pense que c'est parmi les priorités dans cette nouvelle session, qu'on puisse étudier cette loi et qu'on puisse les promulguer le plus tôt pour pouvoir décourager les genres d'autorité qui incitent les populations à prendre des machettes et à pouvoir chercher à rendre ces mauvais traitements auprès des étrangers qui vivent paisiblement.
Parce qu'il y a même des Congolais qui ont les faciès, la morphologie.
Oui, mais c'est ça.
Et les Rwandais qui risquent d'être victimes.
C'est ça le problème. Non seulement ça. Il y a des Congolais qui sont mariés aux Rwandais. Mais ces enfants-là, ils ont la morphologie rwandaise, comme nos sœurs sont mariées aux maris rwandais aussi.
Mmh.
Donc on ne peut pas tuer ces gens-là parce que c'est un problème politique. Il faut que ces jeunes-là comprennent. C'est là que je vous rejoins pour dire que quelque part aussi, il y a une manipulation de certains politiciens. Donc ils doivent être sages et comprendre que c'est un problème politique. Ce qu'ils devaient faire, à mon humble avis, je pense que ils devaient organiser des marches pour inciter le gouvernement à pouvoir allouer un budget consistant à notre armée, à nos services de renseignement, à tous ces services-là qui agissent, la DEMIAP, la NR, tous ces services-là. Donc les gouvernements, ils doivent se mobiliser pour demander à ce que ces gens-là soient mis dans les conditions qu'il faut. On doit leur donner des matériels pour pouvoir travailler. On doit leur donner les moyens consistants pour qu'ils puissent être à la hauteur, pour que nous puissions comprendre certaines choses qui se passent avant que nous puissions assister à de massacres que nous vivons tous les jours.
Donc, bien, d'accord, je reviens à vous tout à l'heure, le temps d'accueillir les auditeurs. Glody Bouanganga nous appelle de Kinshasa, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à l'invité et bonjour au professeur Gary Sakata que j'ai salué en passant. Et
bon,
bonjour à tous les auditeurs de la Radio Cap.
Il n'est plus en ligne, quelle est votre question ou proposition pour lutter contre les discours de haine?
Bien, moi je pense que les Congolais, nos frères qui sont à l'Est, ils ont parfois raison mais ils ont tort. Je m'argumente. Premier argument c'est quoi? Il y a des fois vous pouvez faire confiance à quelqu'un mais vous rendez compte que la personne à qui vous avez fait confiance ne fait absolument rien. Alors, vous-même pouvez se prendre en charge de trouver la solution. Qu'est-ce qui se passe avec nos frères qui se trouvent à l'Est? Le problème qui se pose, c'est quoi? Nos frères ont confiance 100% aux nos frères décédés, mais ils se rendent compte que la situation s'est aggravée de jour au jour. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez un autre problème. Mais le problème, c'est à faire qu'augmenter et ajouter. C'est pour cela que nos frères ont totalement raison. Mais moi, je condamne un peu nos frères de l'Est et je m'excuse un peu parce que l'être humain est sacré. Ça me fait pas plaisir de tuer quelqu'un comme ça parce qu'il a des morphologies rwandaises, soit congolais, non. Ça ne sert pas. C'est un problème que l'État doit prendre en charge de tout ce qui se passe à l'Est. C'est parce que on en a marre. La guerre à l'Est n'est pas commencée aujourd'hui. Depuis la belle époque, moi, je me souviens encore quand on était encore des enfants.
Bien. D'accord.
On parlait toujours de ça. Donc, c'est un problème de l'État de se mettre debout, de trouver la solution. Et c'est par là, on peut lutter à tous ces problèmes. Et aussi, c'est aussi un problème de la sensibilisation. Généralement, il y a certains Congolais qui ne sont.
Voilà, donc il faut beaucoup plus sensibiliser la population. L'honorable Gary a parlé tout à l'heure même des pasteurs, des prêtres, les leaders d'opinion doivent s'impliquer pour sensibiliser la population. Merci, on va accueillir l'honorable Claude Missaré, député national élu d'Ouvira. Et honorable Claude, bonjour. Honorable Claude Missaré, bonjour. Il n'est plus en ligne. Serge Mayemba, un militant du mouvement citoyen Filimbi. Vous êtes en ligne, bonjour.
Merci pour la question. Étant l'avenir, étant donné que nous sommes l'avenir du pays et nous avons l'obligation de construire le demain de notre pays dans la paix et la cohabitation pacifique, il est à signaler que chaque communauté effectivement a des brebis et guerriers. Mais ce n'est pas à nous citoyens qui prône la cohabitation pacifique et qui veut la paix dans notre pays, que à notre niveau, nous pouvons propager des messages de haine qui détruit la cohabitation pacifique. Non, pas seulement la cohabitation pacifique, mais ne garantit pas le développement de notre pays. Et vous, comme vous le savez que moi, et que la plus grande richesse que nous avons dans notre pays, c'est la ressource humaine. Et cette ressource humaine doit être encadrée. Quand on parle de l'encadrement, on doit éduquer cette population là. On doit préparer cette population à vivre ensemble. Nulle part, il y a des guerres partout, comme en Ukraine et en Russie. Nulle part où nous avons vu le peuple ukrainien faire la chasse à l'homme, au risque.
Serge Maïmba, qui doit mener cette sensibilisation-là dont vous faites allusion?
Cette sensibilisation-là se fera à plusieurs piliers. Le premier pilier, c'est au niveau du gouvernement. C'est faire des réformes dans les systèmes éducatifs de notre pays. Dans les systèmes éducatifs de notre pays, ça signifie quoi? Et que dans les systèmes, dans les cours que reçoivent nos enfants, nos petits frères et certains qui sont encore étudiants, nous devons avoir cette notion-là de la cohabitation pacifique et de la paix. Donc nous devons prôner la paix
la cohabitation
au niveau d'abord de l'enfant. Et au deuxième niveau, c'est au niveau des leaders politiques et mouvements citoyens et acteurs de la société civile. Donc ça revient à nous d'éduquer la population et aussi aux partis politiques. Le rôle d'un parti politique n'est pas seulement la conquête et la conservation du pouvoir, mais c'est aussi l'éducation civique. Donc tout doit se jouer à ce niveau-là, afin que prochainement que nous n'ayons pas de messages de haine, de messages qui divisent le peuple, de messages qui ne favorisent pas le développement dans notre pays.
Bien, merci. Honorable Claude Missaré, bonjour. Honorable Missaré, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes député national élu d'Ouvira, au Sud Kivu. Nous parlons aujourd'hui de la lutte contre les discours des haines. On assiste à l'escalade des discours des haines ces derniers temps avec l'agression, le soutien du Rwanda au M23. Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre ces genres de discours?
Oui, tout en saluant mon collègue Gary Sakata, je tiens d'abord à remercier la radio Okapi, plus particulièrement le présentateur de l'émission Okapi Service, de m'avoir associé à cette conversation importante, non seulement pour la nation congolaise, mais aussi pour le peuple congolais, surtout en ce moment de crise sécuritaire. S'agissant de votre question, que faire pour mettre fin au discours de haine observé sur toute l'étendue du territoire national depuis le début de cette récente agression de la RDC par le Rwanda? Je voudrais, avant de répondre à votre question, souligner que ces discours de haine sont prononcés suite à l'agression à répétition de notre pays par le Rwanda, évidemment en complicité avec certains Congolais et des individus d'expression rwandaise. Le peuple congolais est fatigué. Le peuple congolais est en colère suite au massacre de leurs compatriotes dans l'est du pays. Pour le peuple congolais, tous les moyens seraient bons pour en finir avec le Rwanda. Vous avez vu les images à Bukavu, à la petite barrière de Goma, comment le peuple congolais était déterminé à poursuivre l'ennemi dans son pays qui est le Rwanda. Revenant à votre question, je pense qu'il est temps pour certains Congolais de cesser à comploter avec le Rwanda pour agresser notre pays afin d'exploiter nos ressources. Le gouvernement congolais doit mobiliser tous les moyens pour imposer la paix et la sécurité dans l'est du pays. Il n'y a que l'État congolais qui a le devoir constitutionnel de protéger la population. Ce n'est pas par le discours de haine que nous allons cultiver la paix. Et ce n'est pas non plus par la justice populaire observée au Maniema, à Kalima. Et ce n'est pas par le machette à Kinshasa que nous allons construire la paix. En tant que notable de l'Est, je pense que la meilleure façon pour les citoyens congolais de combattre l'ennemi, c'est de dénoncer auprès des services de sécurité et de défense tout mouvement suspect et de se désolidariser avec le Rwanda. Moi, j'encourage en tant qu'élu, j'encourage le peuple congolais et principalement les jeunes à s'enrôler dans les FADC, la police, Le peuple congolais est un peuple hospitalier. Nous ne devons pas rater la cible. L'ennemi principal de notre pays, c'est Kagame, ce n'est pas un secret, sans ignorer ses complices où qu'ils soient.
Bien, merci honorable pour cette intervention. Je reviens à vous, monsieur, notre invité, maître Patrick Zassa. Votre réaction après avoir écouté toutes ces réactions.
Non, moi je me réjouis de ce que la plupart des Congolais commencent à comprendre. Mais reste encore le grand travail au niveau des populations. Je pense que la plupart des leaders les leaders politiques, les leaders d'opinion comprennent que notre démarche, même la société civile, que nous devons nous mobiliser pour que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités en main. Nous devons faire la pression, les lobbying, des marches, pour demander à ce qu'on puisse allouer les budgets consistants. Parce que ce travail-là, c'est au phare d'essayer de les faire. Ce n'est pas aux populations congolaises. Nous, populations, nous devons les encourager. Nous
et
devons
non les haïr ceux qui ont la morphologie et la morphologie.
Parce que c'est difficile aussi de comprendre. Par rapport aux morphologies, il y a nos frères et nos sœurs, comme je l'ai dit.
Oui.
Il y a nos frères congolais qui sont mariés aux Rwandais. Mais ces enfants-là qui ont des pères congolais.
Et d'autres qui ne sont pas Rwandais, mais ils ont seulement la morphologie.
Oui. Donc ça ne servirait à rien. Ce genre de comportement, j'en appelle à la conscience des jeunes congolais. Qu'il ne faut pas céder à la manipulation. Parce que nous le savons, il y a certaines autorités, certains leaders d'opinion qui sont derrière ces gens-là pour les inciter à cette haine parce que leur guerre-là, cette guerre-là, leur profite quelque part. Donc, une seule façon de mettre fin à cette guerre, c'est encourager nos FARDC, veiller à ce que nos FARDC puissent avoir les moyens nécessaires. Non seulement les FARDC, à côté des FARDC, il y a aussi les services d'intelligence, comme je l'ai dit.
D'accord, maître Patrick, alors s'il faut sensibiliser la population contre le discours des haines, qui peuvent le faire?
Mais nous, société civile,
oui.
Les leaders d'opinion, les politiciens, nous devons avoir ce langage-là pour pouvoir dire aux Congolais, notre ennemi commun, ce n'est pas les Rwandais, ils sont nos frères. Nous avons besoin d'eux comme eux aussi ont besoin de nous. C'est un problème politique. Il faut laisser au gouvernement la responsabilité de pouvoir mettre fin à cette guerre. Là aussi, j'appelle les premiers ministres à pouvoir s'impliquer impérativement. Parce que l'urgence s'impose. Vous savez, je l'ai dit au début ici, le fait que les Congolais commencent à agir de la sorte, c'est une interpellation pour eux. Ils doivent comprendre que le contexte est maintenant différent. Les gens en ont ras-le-bol. Trop, c'est trop. Les gens sont fatigués de voir leurs frères et sœurs être massacrés tous les jours. Alors, avant que le pire n'arrive, il doit prendre ses responsabilités en main. Il doit mettre les moyens qu'il faut. Il doit disponibiliser les matériels qu'il faut pour donner à nos FARDC. Nous avons des militaires qui sont capables de pouvoir mettre fin à cette guerre.
D'accord. Et non, bon voilà, on soutient la FARDC et pas des discours de haine à l'endroit des... pas la chasse à l'homme à l'endroit des personnes qui ont
ça,
la morphologie.
Ça, on ne peut jamais, jamais, jamais encourager cela.
Voilà. On va accueillir Maître Mopila de Guémena. Bonjour.
Bonjour aujourd'hui, bonjour Confrère Papy, bonjour Honorable qui a quitté le plateau. En fait, j'ai suivi la préoccupation de tout le monde, mais j'ai apprécié l'honorable qui vient de passer maintenant, il a fait une analyse importante. Alors, je partage sa pensée tout entière. Mais le problème est que, et le confrère qui est au plateau, et moi, et le député qui est parti, personne ne peut soutenir le discours de haine. Mais au niveau de la phase juridictionnelle, on peut inverser la chose ou la procédure. La question est de savoir le fait c'est quoi. Parce qu'on veut là-bas seulement pour condamner. On veut là-bas pour faire la loi pour condamner. Mais il ne parle pas de fait. Parce que j'ai attendu le conseil sur le plateau de droits de l'homme. Il dit que non, c'est un problème politique. Mais si on pose la question de savoir quel est ce problème politique, il ne faut même pas le dire jusqu'à sa mort. Il ne dira pas. Parce qu'il va mélanger, on va mélanger la politique et la sanction des comportements de la population. Ça, c'est de un. De deux, si on parle de fait, nous savons que non, c'est un des trois qui attaquait la RDC, entre autres restes du pays.
Alors, maître Mopila, on n'a pas beaucoup de temps. D'après vous, comment lutter efficacement contre les discours des haines?
En fait, pour lutter contre ça, la loi congolaise, entre autres, code pénal, pas le régime de défense. le ministère doit défendre notre intégrité parce que nous sommes attaqués. Arme contre arme, c'est tout pour défendre le front, c'est ça, pour discours de haine. On peut
bien
cacher, construire son frère, sinon voilà, calme-toi, c'est impossible. On est quand même des humains, nous avons un cœur, nous avons des âmes. On tue les gens, on veut qu'on puisse cajoler ces gens-là, c'est impossible, mon frère. C'est impossible que c'est le conflit de Platon et le député qui a le passeport diplomatique va chez Kagame et lui dit que non, prenez votre vos gens, rentrez avec le Rwanda. Et puis on va terminer. Le rappel est discours de haine. Mais quand Kagame envoie ces gens au Rwanda, on commence à donner l'idéologie. Mais ils sont là, droit de l'homme, c'est aller trouver son collègue de Rwanda, parler avec Kagame. Parce qu'il est le droit de l'homme. Il n'a pas de frontières. Et le député qui a un passeport diplomatique, il doit aller chez Kagame. On peut pas le
Merci, Maître Mopila, Maître Patrick.
Moi, je pense que nous devons faire la part des choses. Notre pays est agressé. C'est à nous de pouvoir défendre notre pays. Nous ne devons pas aller vers Kagame pour lui dire « Non, viens chercher les Rwandais qui sont chez nous. » Ça, c'est un autre problème. Le pays est agressé. C'est comme ça que nous disons. La seule institution habilitée à pouvoir défendre notre pays, défendre nos frontières, ce sont les FARDC. C'est comme ça que nous insistons pour dire qu'il faut doter des moyens nécessaires pour qu'ils soient à la hauteur et qu'ils puissent faire le travail. Les discours de haine là ne vont rien changer. Il faut qu'on se les dise. Je l'ai dit dans la Constitution ici. La Constitution dit qu'il faut protéger ces étrangers qui vivent chez nous au même titre que les autres Congolais. Donc nous devons rester dans la logique de la loi. Nous ne devons pas encourager ce genre de discours de haine. C'est vrai que les faits sont là. Nous sommes tous Congolais. Nous l'avons dit pendant nos interventions ici. Nous en avons ras-le-bol de voir nos frères Congolais être tués tous les jours. Ça, aucun Congolais ne peut accepter cela. Mais trouver des solutions appropriées pour pouvoir mettre fin à cette guerre. Ce n'est pas à la population de faire la guerre auprès des populations. De s'attaquer aux innocents ici. Innocents, oui. Les innocents qui sont attaqués, on les dit souvent ici. Est-ce que tous ces gens-là qui sont attaqués, qui ont des morphologies, est-ce qu'ils sont effectivement Rwandais? Nous agressons nos propres frères en passant qui sont Rwandais. Mais est-ce que c'est vraiment à la population de pouvoir faire cette justice populaire? Cette justice populaire va nous amener à quoi? Est-ce que cela va mettre fin à la guerre? Si nous disons politique, parce que c'est la charge du gouvernement de pouvoir veiller sur l'intégrité territoriale et veiller à la population, sur la sécurité de la population. C'est comme ça que nous ramenons ce problème au niveau politique, parce que ce sont les politiques, les ministres qui est là, les chefs de l'État qui est là, doivent s'impliquer impérativement. Je l'ai dit, les contextes ont changé. Parce que la population en a tellement ras-le-bol. Par rapport
bien
au fait que...
Un instant, on va accueillir Monsieur Crispin Kabolongo, qui est président de l'ONG Action contre les violations des droits des personnes vulnérables. Monsieur Crispin, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur le journaliste.
Voilà, en quelques mots, qu'est-ce qu'on doit faire pour lutter contre les discours des haines?
Moi, je pense que ce qu'on doit faire, c'est passer le message de sensibilisation des luttes contre cette pratique. Comme vous le savez, notre pays a adhéré à plusieurs conventions internationales par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc nous, en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous soutenons tout ce qui est instruments juridiques internationaux qui protègent l'homme partout où il est. Donc en tant que défenseurs des droits de l'homme, nous préférons passer le message de sensibilisation contre cette pratique. Voilà ce que je peux dire maintenant par rapport à tout ce qui se passe actuellement.
Merci. Oui. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Crispin. On a pris beaucoup de temps. On va clôturer cette émission avec vous, Maître Patrick Nzassa. Donc, je pense que le moment est favorable de multiplier des messages de sensibilisation à l'égard de la population.
Oui. Nous en appelons vraiment à la population congolaise, aux organisations de la société civile, les ONG des droits de l'homme, les leaders d'opinion,
les leaders religieux,
oui. Que tout le monde puisse s'impliquer, parce que cette affaire nous concerne tous. C'est une affaire de nos frères et de nos sœurs congolais. Nous en appelons à la sensibilisation de toutes les populations. Nous appelons aussi la population à être vigilant. Je pense que la moindre des choses que nous devons leur demander, c'est d'être vigilant et dénoncer. tous les complots qui se font. Lorsqu'ils sont au courant, ils sont informés de quelques complots qui se passent dans leur coin, qu'ils puissent les dénoncer pour que nous puissions ensemble accompagner nos frères décédés, accompagner notre gouvernement et le président de la République à pouvoir mettre fin une fois pour toutes à cette guerre. Donc,
Mais ne pas s'attaquer aux individus avec des machettes.
La justice populaire n'arrange rien.
Oui.
Nous, notre pays protège ses étrangers. Et comme l'a dit le confrère de l'ONG des droits de l'homme, nous avons adhéré à plusieurs conventions internationales qui protègent l'être humain. Donc là où il se trouve, chez nous, dans notre territoire, il doit être protégé.
Il doit être protégé. Maître Patrick Nzassa, membre de l'ASADO, Association africaine de défense des droits de l'homme. Merci et à la prochaine.
Merci.
Bien, nous avons ainsi mis fin à cette première partie de l'émission Capi Service. Nous allons suivre les informations et on va se retrouver juste après dans la deuxième partie de ce programme pour parler de la pêche illicite.